Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 décembre et au menu de cette émission, on va parler de Noël et oui, et notamment des animations proposées à Château-Gontier avec Teddy, avec le reportage de Teddy. Ça, c'est ce qu'on va entendre tout à l'heure. On va aussi parler d'un concours de Miss pas comme les autres, celui du Miss Modèle de l'égalité dont la finale nationale aura lieu dans 2 semaines à Villiers-Charlemagne. On en parlera avec Anaïs Marot qui sera avec nous d'ici quelques minutes. Et puis le vendredi on parle sport, ça c'est habituel, avec une chronique sport proposée par Steven. Et aussi Teddy, qu'on le retrouve un petit peu partout, Teddy qui va nous parler de Formule 1. Là aussi ce sera en fin d'émission, restez bien avec nous. D'abord on fait un petit point sur l'actualité avec la 5e vague de Covid qui devient préoccupante dans la région selon l'agence régionale de santé. L'hôpital de Laval a déclenché son plan blanc et commence à nouveau à déprogrammer certaines opérations non urgentes. 2 clusters ont été détectés dans le service gériatrie et en médecine polyvalente. Une école reste totalement fermée jusqu'à lundi, c'est celle du Champ d'Oiseau à Azé. Et dès lundi, tous les élèves de 6e vont recevoir 10 autotests à utiliser 2 fois par semaine. Dans ce contexte, selon l'ARS, les tests sont prioritaires sur ordonnance médicale. Pour les enfants des classes où un cas positif a été identifié, pour les personnes ayant des symptômes et pour les cas contacts. Pour défendre l'hôpital de Mayenne, une grande manifestation prévue demain 4 décembre à Paris, prévue à 14h devant le ministère de la Santé pour alerter sur le sort des hôpitaux et notamment l'hôpital du Nord Mayenne. Ses services de chirurgie et de soins continus sont menacés de transfert vers Laval. L'appel est lancé par l'association Audace 53, suivi par EFO et de nombreux élus. La CGT 53, elle, organise un rassemblement devant l'hôpital de Laval pour défendre le même combat demain à 10h30. Une marche citoyenne contre le projet de méthanisation à Châlons-du-Maine. L'association Bien Vivre à Châlons-du-Maine organise demain cette marche prévue à 14h30 avec un départ devant la mairie pour avancer jusqu'à l'entrée du site. Ce qui pose problème aux opposants, c'est bien que le processus de méthanisation sera alimenté surtout grâce aux déchets industriels de Bridor et non en majorité par des intrants agricoles, mais aussi l'état des routes qui ne serait pas adapté selon eux au trafic des camions attendus. Adam, les habitants à nouveau appelés aux urnes ce dimanche, après la démission il y a 3 mois de l'ancien maire Yvon Arrault et d'un conseiller, Denis Brevet. Des élections municipales partielles ont lieu dimanche de 8h à 18h avec 2 candidats en lice, Sylvain Noël, retraité, et Anne L'Écrivain, ancienne professeure des écoles et chanteuse lyrique. Après le derby en Coupe de France, retour au championnat pour les tangos. Le Stade Lavallois se déplace ce soir à Boulogne-sur-Mer. Ce sera sans Cro et Perrault, tous les deux suspendus, ni les blessés Carlier, Fumu, Tamuzo et Etonde. Coup d'envoi du match, ce sera à 19h. Et puis c'est un incontournable du mois de décembre, Teddy, les marchés de Noël.
Et oui, comme chaque année, Château-Gontier avec l'association Castel Shopping, une association de commerçants, organise son marché de Noël dès ce soir 18h. Marché qui ne manquera pas de calèche ni du Père Noël, comme nous l'explique très bien Marilyn Das, adjointe au maire en charge du commerce et de l'artisanat.
Cette année, le marché de Noël se déroulera donc le samedi 11 décembre de 11h à 20h et le dimanche de 11h à 19h. Donc nous attendons 56 exposants qui vont proposer des produits alimentaires ou gastronomiques comme du foie gras, du miel, du jus de pomme, du cidre, etc. Et aussi des artisans qui proposeront des bijoux, de la déco, des objets sculptés. Tout ça, ça se veut festif, ludique. Nous aurons aussi Gauthier Patureau qui assurera l'animation de notre marché. Pour éviter les problèmes de stationnement en centre-ville, nous avons mis en place des calèches qui transporteront les visiteurs du parc Saint-Fiacre jusqu'au marché de Noël. Malgré les conditions sanitaires actuelles, nous aurons la présence du Père Noël et il y aura la possibilité de prendre des photos avec lui en respectant bien la distanciation et les gestes barrières. On n'aura malheureusement pas de bonbons, mais on pourra faire sa lettre au Père Noël puisqu'il y aura une urne à cet effet qui sera disposée devant le présidial. Autrement, des animations, donc c'est le conservatoire du pays de Château-Gontier qui proposera 2 prestations de danse et d'instruments le samedi à 12h et 14h. Ensuite, la chorale Singlish qui sera présente comme les années précédentes à 16h. Et puis, il y aura aussi la fanfare Los Percutos donc, qui proposera aussi une animation. Et le dimanche, on aura les Allumés du Bidon. Donc, c'est un groupe steel band d'une 30aine de personnes qui interviendront à 2 reprises, à 14h30 et 16h30.
Se tiendront également un jeu de piste et une tambola, le tout bien sûr dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Retrouvez toutes les informations en détail sur le site castelshopping.fr.
Merci beaucoup Teddy pour ce reportage autour des animations du marché de Noël. Et puis dès ce soir, la ville de Château-Gontier d'ailleurs sera illuminée à partir de 18h, coup d'envoi lancé par le maire de la ville, Philippe Henry. On va parler de ce concours de Miss, de ce nouveau concours de Miss dont la finale aura lieu à Villiers-Charlemagne. Ce sera juste après la pause musicale assurée par Junior avec leur titre « Tout ».
Paraît que je change d'avis comme de chemise. C'est jamais tout noir, tout blanc, je vois la vie en grise. C'est un tempérament, je suis de nature indécise. C'est pas le temps, tant d'aventures, je relativise.
La dernière note, c'était Junior avec Tout dans l'agité du local sur l'autre radio. Et on va parler, comme je vous le disais juste avant cette pause musicale, de ce concours de Miss pas comme les autres. Il s'appelle Miss Modèle de l'égalité France. Et derrière ce projet, Anaïs Marot, la présidente du comité. La première élection nationale aura lieu dans 2 semaines. Le 18 décembre, ce sera à Villiers-Charlemagne. Et ce qui en fait un peu la spécificité, c'est que tous les profils sont acceptés. En tout cas, il n'y a pas de critères physiques. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bonjour Anaïs Marot.
Bonjour.
Alors justement, déjà, comment est né un peu ce projet? Je crois que c'est lié aussi à votre parcours, si vous pouvez déjà un peu vous présenter à nos auditeurs, tout simplement.
Bien sûr. Donc je m'appelle Anaïs Marot, j'ai 23 ans. Je suis actuellement enseignante de biotechnologie dans un lycée et un collège de l'Orne. J'ai notamment fait plusieurs concours de Miss. J'ai également fait une grande partie de mes études dans le social. J'ai voulu un petit peu associer les deux. Je trouvais important, je sais la visibilité que nous avons avec une écharpe. Souvent on est questionné, souvent ça ouvre plusieurs portes. Et je me suis dit pourquoi pas tourner ce comité à travers tout ce qui est caritatif pour donner de la voix et puis pour prouver que nous ne sommes pas que des femmes représentantes de beauté. Nous pouvons aussi être porte-parole, excusez-moi, et pouvoir défendre des causes.
Ça c'est vraiment un peu le fil rouge, j'ai l'impression, de ce comité-là. Qu'est-ce qui, vous justement, vous a incité en tout cas à faire ces autres concours, puisque ça donc c'est la philosophie du concours que vous avez voulu lancer, mais vous, plus jeune peut-être, qu'est-ce qui vous a incité à faire ces concours de Miss ?
J'ai toujours été un petit peu passionnée par le concours de Miss. J'ai longtemps eu peur de mon corps et pas eu confiance en moi. Je me suis dit que me lancer dans les concours de Miss, ça pouvait me permettre de gagner cette confiance en moi.
Parce que là, on est vraiment exposé pour le coup.
Bien sûr. Après, c'est très compliqué aussi de pouvoir monter sur scène et se faire juger. Parce que c'est le but du concours. Mais ça nous permet d'acquérir énormément et de gagner énormément confiance en nous. Et pour moi, c'était un rêve d'enfant et j'ai pu réaliser ce rêve.
Donc un rêve est devenu réalité puisque vous avez obtenu quelle couronne, si on peut là aussi les rappeler ?
Alors j'ai obtenu la couronne d'ambassadrice Pays de la Loire 2020-2021.
Ce qui vous a permis, vous disiez, d'ouvrir des portes. Très concrètement, ça se passe comment ? C'est-à-dire que si vous voulez aller voir des gens, c'est tout de suite, ça va être un grand oui. Comment ça se passe ?
Alors ça ouvre des portes dans le sens où cette écharpe questionne, bien évidemment. On nous interroge sur notre rôle, sur qui nous sommes, et on porte une région. Moi, j'ai notamment pu représenter la région Pays de la Loire à de nombreuses reprises, sur de nombreux événements. On porte notre région, et si on peut porter une association avec nous, c'est tout autant intéressant.
Et donc justement, il y avait cet univers-là de toute façon qui vous attirait, dont vous avez pu tirer les avantages. Et quel a été le petit déclic, le moment où vous vous êtes dit « maintenant, c'est à moi de lancer le concours ».
Eh bien, je me retrouvais dans certains concours de Miss, mais il me manquait toujours ce petit côté. J'ai fait énormément d'associations en tant que bénévole. Et je me suis dit « pourquoi pas associer ces deux passions que j'ai en moi ?» J'ai fait longtemps mes études dans le social, donc j'ai énormément fait de stages dans le social, dans des associations, et je trouvais important de lier ces deux mondes, et donc ce comité est né naturellement à la suite de cela.
Et alors, si on avance petit à petit, donc on parle plus concrètement, qui est-ce qui peut participer justement à ce concours ? Quels sont les critères ? Si on part du principe qu'il n'y a donc pas de critères physiques, de ce que j'ai compris, oui. Quels sont-ils ?
Alors, nos critères sont qu'il n'y en a aucun, on n'a aucun critère. On privilégie par contre les profils majeurs, dans le sens où certaines causes sont très particulières et très compliquées à accompagner. Donc une personne majeure est plus en mesure de porter certaines choses plutôt qu'une personne mineure. Après, tout dépend de la maturité, j'en ai conscience. Mais tout profil, on n'exclut pas les petites, les grandes, on n'exclut pas les personnes ayant des formes ou les personnes plus maigres. On accepte réellement tout le monde, au contraire.
Puisque donc l'idée c'est que ce soit ouvert à tous et à toutes, toutes en tout cas ici, et vraiment axé sur les causes, c'est-à-dire que c'est comment ça se passe là, les candidates qui seront là à Villiers-Charlemagne dans 2 semaines, chacune d'elles défend une cause en particulier ?
C'est ça. Elles seront 10 en lice, on en a 12, on a 12 élus malheureusement, certaines ne peuvent pas être présentes le 18. Nous avons 10 jeunes filles en lice, 10 causes aussi différentes, en passant par le harcèlement scolaire. Donc elles interviennent dans des écoles pour faire de la prévention contre le harcèlement scolaire. D'autres interviennent aussi également, font de la prévention sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est harcèlement scolaire. On peut toucher à tout ce qui est violences faites aux femmes également. Donc des porte-parole ont été créés, des groupes de porte-parole ont été créés pour accompagner ces jeunes femmes. Nous avons également l'écologie. Donc là, des collectes de déchets sur les plages sont organisées. Et nous avons également tout ce qui touche à la cause féminine, parce qu'on oriente aussi notre comité sur les droits de la femme et l'opportunité et les opportunités que la femme a aujourd'hui et les droits qu'elle peut avoir et qu'elle n'a malheureusement pas toujours. Voilà.
Donc c'est tout l'intérêt en tout cas de ce concours-là, de pouvoir mettre toutes ces causes-là à l'honneur, de pouvoir en parler aussi. Qu'est-ce que ça permet justement d'offrir cette visibilité ?
Eh bien, ça permet d'accompagner des jeunes filles qui parfois se sentent seules. J'ai notamment pu accompagner certaines de mes filles. Alors quand on dit de mes filles, c'est des filles de mon comité, à avancer dans leur chemin. On est passé par des étapes qui sont compliquées. De par mon métier de travailleur social de base, je peux me permettre de les accompagner dans cette démarche. Donc il y a un côté aussi personnel pour elles et un côté collectif dans le sens où cette visibilité permet aussi de parler de certaines causes, parfois taboues.
Ça va être le cas justement, j'imagine, lors de la soirée du 18. Comment ça se passe très concrètement, puisque, bon, bah, pour ne pas le citer, évidemment, on a toujours le concours de Miss France en tête où elle défile en maillot de bain, après il y a le petit discours, etc. Là, j'imagine que l'idée, c'est pas de faire un copier-coller de ça, mais comment va se passer la soirée ?
Alors, cette soirée va se passer sous quand même le thème d'un défilé. Elles vont défiler. Les filles ont des tenues... Nous, on leur demande des tenues plus personnelles, c'est-à-dire qu'elles auront des tenues imposées par le comité, par nos partenaires, étant donné que nous avons des partenaires qui nous prêtent des tenues, donc c'est aussi un moyen un petit peu pour elles de rêver dans de belles robes ou de rêver dans de très belles tenues. Mais à côté de ça, nous, ce qu'on veut, c'est découvrir une personnalité, découvrir une cause et qu'elle nous fasse en fait voyager à travers tout ça. On a notamment un tableau, donc un défilé, sur leur cause, donc elles seront en tenue de cause, donc des tenues représentant leur cause.
Alors, des tenues de cause, ça m'intrigue un petit peu, parce que par rapport à ce que vous disiez, par exemple, par rapport aux violences faites aux femmes, c'est-à-dire qu'il y aura un maquillage particulier, à quoi on peut s'attendre
c'est
sur
ça.
Scène
bah, par exemple, tout ce qui est violences faites aux femmes, notamment dans leur élection régionale, nous avons eu des jeunes filles qui étaient maquillées, qui avait des masques par exemple, enfin il y a toute une symbolique derrière. Dès lors qu'on le voit, leur tenue de cause, on comprend directement la cause qu'elles soutiennent.
Ça permet de, j'imagine, plus marquer aussi forcément.
C'est ça.
Avec ce maquillage, ces accessoires, cette tenue aussi. D'accord, donc ça effectivement c'est ce à quoi on peut s'attendre la soirée même. Ce sera peut-être rappeler les infos pratiques, ce sera donc le 18 à Villiers-Charlemagne, c'est ça ?
C'est ça, le 18 à Villiers-Charlemagne à partir de 19h.
À partir de 19h, il reste encore quelques places, il faut se dépêcher, j'ai l'impression.
C'est ça, il reste quelques places, malheureusement avec les conditions sanitaires, on se prononce pas sur l'ouverture... de 200-300 places, il reste quelques places à pourvoir.
Très bien, donc allez sur Hello Asso pour retrouver ces dernières places. Et puis je voulais aussi parler justement de ce concours-là par rapport à, on l'a dit en tout début d'interview, il y a déjà beaucoup de concours qui existent et notamment le concours de Miss France qui aura lieu une semaine avant. Avec de plus en plus de critiques, même s'il se maintient, mais de plus en plus de critiques justement sur le cliché de la femme potiche qui ne sert à rien, clairement, enfin, tout cas juste vraiment femme objet, pour être polie en tout cas. Est-ce que l'idée de proposer un concours différent, c'est pour aussi contrer ces clichés qui peuvent encore perdurer ?
Eh ben,
ce
oui.
sont des clichés, je précise, je ne dis pas du tout que les candidates à Miss France sont comme ça, mais en tout cas c'est l'image qu'on peut en avoir via le concours.
Oui, tout à fait, et puis surtout l'approche de Miss France, il y a les pour, il y a les contre, malheureusement tous les ans c'est plus ou moins la même guerre, si je peux me permettre, entre les deux. Ce comité-là, il a été fait pour un petit peu casser les codes, et justement casser ce fait de femmes objets. Les filles, elles ne sont absolument pas dans notre comité jugées sur leur physique. Toutes les notes sont beaucoup plus profondes, à savoir c'est des notes qui vont être de l'engagement, de leur investissement et de leur projet à travers leur cause. Au-delà des défilés, bien sûr on garde une petite partie de défilé pour aussi les faire rêver. Nous avons toute cette partie engagement qui est très concrète et la défense de cause et notamment la défense des droits de la femme.
Défense des droits de la femme, défense aussi d'autres causes, vous le disiez. Mmh. C'est ça l'intérêt finalement de maintenir un concours, parce qu'on peut aussi se dire pourquoi faire ça sous forme de concours finalement. Mais aussi, enfin, j'ai l'impression que dans ce que vous disiez, il y a deux choses. Il y a à la fois l'aspect, ça offre cette visibilité, et puis aussi bah, quand même d'avoir des belles tenues, de défiler, ça fait un peu rêver quoi.
C'est ça, on veut garder cet espoir. Et puis dans les yeux des petites filles, souvent... ça fait rêver, c'est pour elles des princesses. Donc on n'a pas envie d'enlever cette magie dans le regard des jeunes filles. Mais on veut prouver que cette magie, elle n'est pas que sur scène. On peut aussi avoir de réelles causes à défendre et être des réelles porte-parole et pas que des jeunes filles qui défilent sur des podiums.
Et donc ces causes-là, en tout cas, on les découvrira le jour même ou est-ce qu'il y a un endroit, un site par exemple, une page où on peut découvrir les causes des différentes candidates qui seront présentes dans 2 semaines?
Alors on a un site internet, donc Comité Modèle de l'Égalité, où vous pouvez retrouver toutes les causes des jeunes filles et leurs actions qui ont été menées tout au long de leur année, et également nos réseaux sociaux, donc notre Instagram, Comité Modèle de l'Égalité France, et Facebook.
Juste une dernière petite question, est-ce que vous, ça vous manquera pas justement de pas défiler avec les autres et de pas monter sur scène, d'être passé de l'autre côté de la barrière finalement ?
Non, j'éprouve mon plaisir à travers leur évolution, à travers leur accompagnement. Après, je monte toujours sur scène avec elles. Aujourd'hui, ce ne sont pas que des simples candidates. Pour beaucoup, c'est devenu des personnes que j'affectionne particulièrement et d'autres, pour la plupart, des amis. Donc ma victoire à moi, c'est leur évolution à elles.
Très bien, en tout cas ça se sent, en tout cas tout cet attachement et tout cet engagement au travers de ce concours donc Miss Modèle de l'Égalité France, on le rappelle, donc dont la finale nationale aura lieu dans 2 semaines à Villiers-Charlemagne. Il reste encore quelques places sur helloasso.com. Merci beaucoup Anaïs Marot d'avoir été avec nous pour
merci.
En parler.
Merci à vous de m'avoir accueillie.
Pas de souci. Merci en tout cas de nous avoir présenté ce tout nouveau concours, pas comme les autres, vous l'avez compris. On fait une petite pause en musique avec Deluxe Family Show et on revient tout à l'heure. Attention, on va parler sport.
Boogie, oogie, woogie form, we say goodbye. Hear my D to the E to the
On est bien avec Deluxe Family Show dans la JT du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio. Et le vendredi, c'est sport avec la chronique de Steven. Et derrière son micro aujourd'hui, un sportif médaillé d'argent et de bronze aux mondiaux de sa discipline, le patineur Mathis Rocher du club de Château-Gontier.
Alors aujourd'hui, zoom sur la discipline du roller avec la présence d'un futur champion, Mathis Rocher, qui a participé au championnat du monde de vitesse en Colombie. Alors merci Mathis d'avoir accepté cette interview. Peux-tu te présenter rapidement ?
Alors bonjour, je m'appelle Mathis Rocher, j'ai 18 ans. Je suis originaire de Château-Gontier et je fais du roller de vitesse au club de Château-Gontier. Et actuellement, je fais mes études sur Toulouse, des études de chiropraxie.
Toulouse, alors tu arrives justement à gérer entre le sport et le scolaire ?
Ouais, je suis accompagné avec un club du côté de Toulouse et j'arrive à combiner les deux pour le moment.
Alors tu as eu la chance de participer aux mondiaux de roller en Colombie, tu as remporté une belle médaille de bronze sur le 10 km. Que représente justement cette médaille ?
Elle représente beaucoup de fierté et récompense le travail que j'ai donné pendant toute une année, même 2 ans, parce qu'en fait l'année dernière il n'y a pas eu de championnat du monde à cause du Covid. Et donc ça récompense mon travail, celui de mes entraîneurs, de mes amis et de ma famille.
Et puis ça représente surtout le territoire de Château-Gontier, tu peux parler un peu de la Mayenne. En plus de cette belle médaille de bronze, tu as aussi raflé l'argent sur l'épreuve du relais, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Comment tu t'es préparé justement aux deux disciplines qui, je pense, sont un peu différentes entre une qui est plutôt individuelle et peut-être l'autre un peu plus collective. Comment tu t'es préparé justement à cette compétition, d'abord mentalement et puis après physiquement ?
Alors, mentalement, on n'a pas forcément beaucoup de travail mental. En fait, avant la course, on planifie une stratégie, mais ces stratégies-là, on les répète plusieurs fois, on fait plusieurs stages pendant toute l'année, donc on est au point sur ces tactiques. Et physiquement, on fait beaucoup de stages pendant toute l'année, donc on est préparé physiquement et on se connaît, donc il n'y a pas forcément beaucoup de préparation avant la course. C'est plutôt les entraînements qui sont avant la compète qui sont...
Alors, physiquement, comment tu te prépares ? Alors, tu t'entraînes combien de fois en gros par semaine sur des plages horaires d'une heure, 2 heures, 3 heures ?
On s'entraîne 1 à 2 fois par jour quand on peut. Et donc, c'est plutôt des entraînements soit très longs, soit assez courts. Donc, quand on fera du plus court, ce sera plus de l'intensif. Et plus long, ce sera de la basse intensité pour.
Alors, comment as-tu un peu géré tes courses avant, pendant et après, surtout pendant, parce que quand tu réalises quand même que tu es 3e ou 2e et que tu arrives à l'arrivée, je pense qu'il y a une gestion des émotions, parce qu'on parlait du mental, je pense qu'il y a une gestion des émotions quand même assez importante.
Les premières courses, on ne s'attendait pas. En fait, on découvre un peu, c'était la première fois, donc on ne savait pas à quoi s'attendre. Donc, les premières courses, c'était très dur, même mentalement, pour se remobiliser après, parce que les Colombiens étaient très bien préparés. Ça faisait 3 semaines qu'ils s'entraînaient à 3000 mètres d'altitude à Bogota. Donc quand ils sont descendus, ils ont eu les effets d'altitude, donc ils avaient un 3e poumon, donc ils faisaient ce qu'ils voulaient sur la course, donc c'était à nous d'être plus malins. Et il y avait aussi des conditions climatiques qui étaient à notre désavantage, avec beaucoup d'humidité, à peu près 80%. On était à 1200 mètres d'altitude, et il faisait très chaud, donc les conditions climatiques n'étaient pas au top. Mais sinon, on a quand même réussi, donc c'est le principal.
Alors, tes objectifs en partant d'ici aux Mondiaux, est-ce que c'est plutôt mission accomplie c'est quand même 2 médailles, on ne peut pas dire que ce n'est pas bien. Une médaille de bronze et une médaille d'argent, c'est super. Est-ce que tu visais autre chose ou est-ce que tu es satisfait ?
Bah oui, clairement, je visais l'or. Mais
sur quelle discipline ?
Sur j'avais une préférée, c'était la course à élimination sur piste.
Ok.
Sauf que c'était la première course que j'ai fait où j'ai fait 3e, du coup. Et une fois que cette course était passée, il fallait aller chercher l'or sur n'importe quelle autre course. Et j'ai même fait des courses qui n'étaient pas forcément des courses adaptées pour moi. Et je m'en suis très bien sorti, mais bon.
Alors, est-ce que tu as su gérer un peu cette frustration, même si tu as quand même une médaille d'argent et de bronze ? Est-ce que tu es quand même plutôt dire mission accomplie et puis l'or, ça va venir ? Ou tu es vraiment, tu dis bon...
Non, c'était vraiment aller chercher l'or et c'était une motivation pour se donner à chaque course, quoi.
Alors aujourd'hui, tu es nominé dans la catégorie Espoir de l'année mayennaise. Une reconnaissance de ton potentiel et de je pense, la relève au niveau du roller. Alors, qu'est-ce que ça te fait déjà d'être nominé ? Et est-ce que cette médiatisation sur toute la presse, les radios, est-ce que tu arrives à garder les pieds sur terre ? Parce que c'est quelque chose qui, avec la médiatisation, pas toujours simple.
Non, oui, j'arrive très bien à garder les pieds sur terre et c'est une très grande fierté d'être nominé sur cette catégorie en espoir. Depuis 2 ans, je suis suivi par la team Mayenne. Donc, j'ai intégré la team Mayenne depuis 2 ans. Donc, en fait, la Mayenne nous aide énormément au niveau côté sportif. Ils nous soutiennent financièrement et même ils nous soutiennent avec les réseaux ou même les journalistes. Donc, on se sent très soutenu et ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que ça continuera.
Bon, est-ce que tu t'y attendais ou ça a été, t'as regardé le journal ou les réseaux, tu dis ah oh, tiens, je suis dans la catégorie espoir.
Ah oui, la catégorie espoir, je m'y attendais oui et non, je savais pas dans quelle catégorie j'allais être, mais je savais même pas si j'allais dans une d'entre elles, mais oui.
Bon, tu auras un client, un jeune homme rouillon du tennis aussi de Château-Gontier qui lui aussi est dans la même catégorie. Eh bien, je rappelle que vous pouvez voter pour Mathis jusqu'au 8 décembre sur le site internet ou les réseaux sociaux du conseil départemental. Merci beaucoup Mathis d'avoir accepté cette invitation et puis on te souhaite le meilleur et puis on espère une médaille d'or très rapidement sur les prochains mondiaux.
Merci beaucoup.
Eh oui, à vos votes si vous voulez soutenir Mathis Rocher, mais aussi en catégorie espoir, on retrouve Aubin Rouillon en tennis, Steven en a parlé, Tiphaine Crevenat en tennis fauteuil et Ilona Derouet en pentathlon moderne. Je vous l'ai dit aujourd'hui, on est très très sport, on est vendredi et on poursuit donc direction la F1 avec Teddy qui va nous parler justement de la Formule 1 de l'an prochain.
Et oui, outre cette fin de saison incroyable, les équipes se sont depuis le milieu de l'année 2020 penchées sur les F1 de 2022 qui marqueront une révolution pour la discipline.
Et alors, en quoi consiste justement ce nouveau règlement ?
Eh bien ce règlement a un but principal, plus de spectacle. Et oui, même si les performances des équipes n'ont fait que de se rapprocher depuis la dernière réglementation de 2017, les voitures ont tout de même du mal à se suivre, à se dépasser et donc à faire le spectacle. Et le principal responsable de cela a un nom, le dirty air. Le dirty air, qu'est-ce que c'est ? Eh bien le dirty air, c'est de l'air qui est soulevé par les monoplaces à leur passage et qui est ensuite rejeté à l'arrière de la voiture sous forme de perturbations et d'autres vortex. Cet air sale impacte directement le poursuivant et sa voiture car il perturbe son aérodynamisme et l'empêche alors de se rapprocher et de dépasser. C'est donc avec cette contrainte en tête que la FIA, Fédération Internationale de l'Automobile, a dessiné en soufflerie les grandes lignes des nouvelles F1, dans le but de réduire au maximum cet effet qui parasite les courses.
Et ce règlement se résume simplement à ça, Teddy ?
Et non, car 2022 verra aussi la F1 adopter le système de budget annuel capé. Ce système qui verra le budget des équipes réduit à 140 millions d'euros par an maximum a pour but de réduire les écarts de performance liés aux moyens. Là où Mercedes, la meilleure équipe, dépense 450 millions d'euros par an, Haas, la plus petite, dépense, elle, 100 millions d'euros par an. Mais ce n'est pas tout, car 2022 verra aussi le retour des voitures à effet de sol. Interdite depuis le milieu des années 80 car trop dangereuse pour les cercueils roulants de l'époque, cette technologie qui consiste à utiliser un fond plat qui est le dessous de la voiture en forme d'aile d'avion retournée, ça ne va pas créer de la portance au contraire, mais bien un phénomène d'aspiration qui va coller la voiture au sol et lui permettre d'aller plus vite. La course à l'innovation arrive donc à sa fin. Qui trouvera l'élément technologique qui permettra de devancer les concurrents ? Pour le moment, impossible de le savoir. Certains pilotes ont en cette fin 2021 eu l'opportunité d'essayer leur nouvelle monoplace en simulateur, et selon le pilote Charles Leclerc, celles-ci sont, je cite, « radicalement différentes des F1 actuelles » et seront plus exigeantes envers leurs pilotes. D'autres, comme Hamilton ou Vettel, sont pessimistes et trouvent ces voitures massives et moins attirantes. Quant à moi, je me demande si cette réglementation va atteindre son but. Réponse en février prochain aux essais de Bahreïn.
Merci Teddy, on va faire comme ça, on va attendre les premiers essais en février prochain pour comprendre si finalement ce changement va avoir de bons effets sur la course et sur les pilotes. Et puis merci Teddy d'avoir passé ces 2 semaines de stage avec nous et d'avoir contribué à l'antenne aussi. Vous avez pu entendre ces sujets tout au long de cette semaine. On est vendredi, donc on va passer à l'agenda avec le coup d'envoi du 35e Téléthon aujourd'hui. Plus de 60 animations donc à retrouver tout au long du week-end avec notamment des villages entiers illuminés à la bougie. Là ce sera à Sacé et à Martigné-sur-Mayenne. Demain, 24 heures de nage voyage non-stop par équipe à Ernée, 24 heures de run and bike à Loire-Montrouilly. Il y a beaucoup de défis de 24 heures, vous l'avez compris, des challenges sportifs mais aussi culinaires avec des ateliers cuisine pour préparer des biscuits et des éclairs à Aurigné, mais aussi un concours de la meilleure soupe entre 7 communes. À Laval se tient aussi demain le traditionnel marché des Lumières, ce sera place des Acacias de 17h à minuit avec la fanfare Move and Brass qui sera présente dès 16h. Vous pourrez aussi profiter du mapping sur le château et du sapin de feu. 26 artisans créateurs seront présents sur place. Attention, impossible de stationner et de circuler de 14h à 2h du matin autour de la place de la Trémoille et de la place des Acacias. Et puis, si vous êtes à Laval, demain et dimanche, vous pourrez aussi profiter du spectacle La Reine des Neiges au Théâtre du Tiroir. D'après le texte original d'Andersen, se joue au Petit Théâtre. Tarif entre 5 et 15 euros la place. Toujours du théâtre, mais du côté de Château-Gontier, du côté du Rex, avec Colloque Blues de la compagnie Acta 3, autour d'une colloque, de trois colloques d'ailleurs, âgées de 50 ans, qui, tant bien que mal, essaient de cohabiter ensemble. Et ce qui va les réunir, c'est bien la musique, en tout cas c'est ce qu'on soupçonne au vu du titre. Vous pouvez réserver vos places sur l'adresse mail compagnieacta3@gmail.com. Et puis Noël approche, vous pensez peut-être déjà à la déco et pour vous aider, vous pouvez participer à l'atelier de la médiathèque de Château-Gontier, un atelier origami de Noël demain à 10h30. C'est gratuit, mais il faut réserver par mail à médiathèque@chateaugontier.fr. Et puis, dernier petit point de cette sélection non exhaustive, évidemment, de ce week-end, vous pourrez aussi découvrir le Manas autrement avec Hervé Salès, un artiste slammer et poète-performeur. L'objectif, c'est donc de découvrir quatre œuvres à travers son ressenti, retranscrit donc d'une autre manière. Ce sera dimanche à 15h30. Là aussi, gratuit sur réservation par téléphone au 02 53 74 12 30. Donc vous l'avez compris, beaucoup de choses à faire ce week-end. Et puis vous pouvez aussi d'ores et déjà participer à notre concours Instagram pour gagner vos places pour le concert du 6x4 jeudi prochain pour Last Train et Fantôme. Une soirée rock qui vous attend donc jeudi à partir de 20h30 au 6x4. Il vous suffit de liker et de taguer, je crois, la personne avec qui vous souhaitez aller à ce concert. Début du concours dès aujourd'hui et vous avez, je crois, jusqu'à lundi ou mardi, donc dépêchez-vous si vous êtes intéressé. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour vendredi, pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et à l'antenne, évidemment, les émissions se poursuivent. À 20h, il y aura Passe-moi le thème, aujourd'hui autour de l'argent. Demain, à midi, du poil sous les bras, on parle de handicap version queer. À 17h, retrouvez Bud Station, suivi à 22h du Grand Convoi. Et puis, dimanche à 11h, retour de Sport Épique et à 19h de l'émission On lit quoi nous. Je vous souhaite une très bonne journée, un beau week-end et à lundi.